cuve des reins. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Et là, nous entrons. C'est bien que nous ayons reconfessé notre engagement avec Christ. Parce que voilà le temple. La cuve des reins était juste à la porte du temple. Donc quand tu sors, tu n'as même plus le temps de ressalir les pieds. Non, c'est directement. Mais il est décrit quelque chose dans le temple. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire dans la Bible. Parce qu'il faut que vous entendiez ce que Dieu dit et explique à Moïse. Si vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles. Nous allons écouter ce que Dieu dit à Moïse, les instructions spécifiques que Dieu dit à Moïse par rapport à son temple. Parce que Dieu ne fait rien sans l'avoir dit à un de ses prophètes ou ses oints. La parole de Dieu dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Oui, il cache beaucoup de choses. Mais il nous dit aussi que parce qu'il nous aime, il ne fait rien sans l'avoir dit. Donc, il révèle. Il trouve toujours le moyen de s'ouvrir. Il nous explique pourquoi il fait des choses. Amen. La parole de Dieu nous dit que le temple, nous sommes dans Exode. Dans Exode 25, il donne des instructions à Moïse pour le tabernacle. Il a dit, regardez bien ce modèle et puis on va faire. Nous devons entrer dans le temple. Sur le temple, on a construit le temple, on ne va pas insister sur les matériaux. Il a dit, vous ferez ceci en bois, machin, etc. Nous constatons une chose. Le temple est fermé, hermétiquement couvert. De couverture, il y a au moins 3 couches de couverture qui couvrent le temple. Et dans le temple, il y a 2 espaces. Le premier espace est délimité par un voile qui est hermétique aussi. Et l'espace de devant est formé et il y a une porte. Mais la porte, je vous ai dit, la maison de Dieu, la porte c'est un enchevêtrement de tissu, de toile. Ce n'est pas une porte béante ouverte comme ça, non. Il enchevêtre. Il faut vraiment vouloir pour entrer. Il faut faire l'effort d'ouvrir cette porte et de traverser. Amen. Mais ce qu'il nous fait constater, c'est que l'ensemble de ce temple-là, la porte étant ainsi fermée, les couvertures, n'a pas d'ouverture sur l'extérieur. C'est un temple qui est bâti et ne communique pas avec l'extérieur. Parce que ce qui est dedans doit être saint et demeurer saint. Donc quand Jésus te prend de la cuve des reins, il ouvre la porte. Et il entre avec toi dans le temple, le lieu dit lieu saint. Il referme les rideaux derrière lui. Quand on entre, on est dans la pénombre. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'ouverture, donc on est dans le noir. C'est normal. Quand on vient en Christ et que l'on veut progresser dans la parole, on veut progresser avec Christ, on est comme perdu parce qu'on ne sait rien. On est dans l'obscurité parce qu'on n'a pas ces connaissances-là. On découvre de nouvelles choses. Mais Dieu est comme il est. Dans ce lieu, il demande que nous le louons pour qui il est. Donc nous allons aller à la découverte de Dieu. Nous allons aller à la découverte de Dieu. Et quand on entre dans ce lieu saint, on bute presque, on tombe presque sur la table de pain de proposition. Il y a une table qui est juste posée là. Et dessus, il y a des pains de proposition. Et ce pain de proposition, la parole dit que c'était la nourriture du sacrificateur. Le sacrificateur devait se nourrir. Amen. C'était une nourriture consacrée. Une nourriture sacrée. Personne d'autre n'avait le droit de manger de cette nourriture. Surtout pas le peuple. Les Lévites et le sacrificateur, c'était leur repas. Ça veut dire qu'une fois qu'ils étaient dans le tabernacle, ils ne mangeaient pas n'importe quelle nourriture. Ce qu'ils mangeaient devait être consacré à Dieu et sacré par Dieu. Amen. Ça donne une idée de ce dont le Seigneur veut que vous vous nourrissez. Si vous voulez être des sacrificateurs royaux et vous tenir en intercession avec le Père, vous devez veiller sur votre nourriture, la qualité de ce que vous mettez dans la bouche. Amen. Nous sommes spirituels. Eux, ils avaient le pain consacré. Et ils avaient la loi que Moïse avait établie pour eux. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons la parole et nous avons les évangiles et nous avons Christ. Alléluia. Les pains de proposition. À ce poste, Jésus se tourne vers toi et te dit, je suis le pain de vie. Amen. Je suis le pain de vie. Je suis la parole. Et il faut que la parole se fasse chair en toi pour que nous avançons. Il dépose devant toi une nourriture qui est sa parole. Si nous avançons pour louer l'Éternel pour ce qu'il est, nous devons le connaître. Nous ne pouvons pas prétendre louer l'Éternel pour ce qu'il est alors qu'on ne sait pas qui il est. Et c'est dans sa parole qu'il nous dit qui il est. Donc nous devons d'aller chercher dans sa parole qui est Dieu. Parce que nous pensons que Dieu est. Mais ce que Dieu nous dit qu'il est. Alléluia. Il y a une nuance. Parce que je vais prendre un petit exemple. Et je vais vous dire. Généralement, nous chantons. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Dieu n'a pas dit qu'il était Jéhovah Jireh. C'est Moïse qui a expérimenté le Jireh de Dieu et a dit, j'ai un Dieu qui est Jireh. Dieu n'a pas donné ça comme nom. Mais nous, ça nous arrange parce qu'on veut bien qu'il soit aussi notre Jireh. Et nous disons, Jéhovah Jireh. Mais quand Dieu a dit, je suis celui qui suis, personne ne l'appelle comme ça. C'est le premier nom que nous devons connaître si nous voulons appeler notre Dieu comme Dieu veut qu'on l'appelle. Amen. Et la Bible est comme ça. Il s'agit là d'apprendre Dieu sous ses noms que Dieu même a donnés. Je suis le Jéhovah. Checkez-nous. Le Dieu du jugement. Il n'y a pas d'autre juge, d'autre personne qui tient le jugement que lui. C'est une autorité confiée à personne, sauf à Jésus quand il reviendra pour la prestation. Il y a un certain nombre de choses comme ça que Dieu dit qu'il est. Si tu veux adorer Dieu pour ce qu'il est, tu dois apprendre ces choses, mes amis. C'est la table du pain de proposition. C'est la parole de Dieu vivante. C'est à ce moment cela t'est offert. La Bible est là. Les évangiles sont là. Les épîtres sont là. Les enseignements sont là. Les livres sont écrits. Soyez curieux. Ayez faim et soif de la connaissance de la parole de Dieu. L'Éternel dit, et il a dit depuis, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. C'est la table du pain de proposition. Quand on entre, on est dans l'aveuglement. Tout est sombre parce qu'il n'y a pas d'ouverture extérieure, il n'y a pas de lumière du jour. On vient de la lumière du parvis et on entre. Et on a presque... Mais essayez d'entrer dans une chambre noire. Tout le monde fait comme ça. Mais c'est comme ça que nous tâtonnons quand nous apprenons à marcher avec Dieu. Ah, il y a une table ici. Il y a des choses dessus. Hein. C'est mou. Hey, ça peut être bon, hein? Amen. Quand tu commences à étudier la parole et que l'Esprit de Dieu te donne les révélations, si quelqu'un a commencé ça, c'est sucré, non? C'est vraiment sucré. Tu te rends compte, tu sais pourquoi? La parole, là, c'est la nourriture. Quand je suis engagée sur un thème, sur une notion que je vais étudier, ma soeur va vous dire, je peux passer une journée, deux journées dans la chambre, je ne sors pas jusqu'à ce que je me sois rempli. Mes enfants étaient fatigués de venir guetter dans la chambre. Maman, ça va? Oh, ça va, mes enfants, ça va. Ayez faim et soif. À cet endroit-là, si vous n'avez pas faim et soif de la parole de Dieu, cette table-là va vous bloquer là-bas. C'est à l'entrée. tu ne peux pas aller autre part dans cette pièce sans t'être enrichi de ça. Alléluia. Et Dieu le met à votre disposition par la lecture. Et Jésus est tellement bon que quand il a pris les 120 pour aller à Dieu, il a dit libère les Saint-Esprit. Parce que ceux qui sont là, qui arrivent pour remplir le royaume, je ne sais pas comment ils vont faire. Donc il a disposé de tout. Le pain de proposition est libéré. Il ne vous reste plus qu'à manger. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la nuit et jour afin d'agir conformément à ce qu'elle te dit. Et c'est alors que tu auras du succès. Et c'est alors que tu réussiras toutes tes entreprises. C'est la première fois dans la Bible que Dieu parle de succès. Je vois beaucoup de personnes écrire sur le succès. C'est succès, 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 succès. On a confondu le succès du monde au succès de Dieu. Dieu dit que ton succès, personne ne peut te le donner. Mais ce qui est sûr, si tu t'appuies sur sa parole, dans tout ce que tu vas entreprendre, tu auras le succès. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir le succès. Si quelqu'un vous dit qu'il prie sur vous pour que vous ayez le succès, appelez le menteur. C'est une réalité. Il n'y a pas d'onction du succès. Qu'on ne vous manque pas. C'est dans la parole. Les stratégies du succès sont écrites là-dedans. Mangez la parole tous les jours. Médite-la. Afin d'agir, il y a trois étapes. Tu manges d'abord. Tu médites. Le Saint-Esprit te met tout en place. Ensuite, tu agis. Comment on dit que ça doit agir? Derrière, le succès vient. Amen. Parce que quand tu commences à agir, tu prends des résolutions. Tu prends des résolutions pour ta vie. Je ne fais plus ça, je ne fais plus ci, et ceci je fais comme ça, et ceci je fais comme ça. Et la parole de Dieu te dit, et c'est Salomon qui parle, il parle en connaissance de cause. Il te dit à tes résolutions suivront le succès. Amen. Parce qu'une résolution, ce n'est pas au début de l'année, oh vraiment, je ne bois plus la bière. Et un mois après, ah, pardon, envoie-moi, on va seulement un peu goûter. Non. Une résolution, c'est quelque chose que tu as médité. Une décision que tu as formellement prise. Et que désormais, ça s'implique à ta vie comme une loi. Une loi que tu t'es toi-même érigée. Si elle est conforme à la parole de Dieu, Dieu dit qu'il y aura le succès. Amen. Et c'est ça, la table de proposition. En Christ, Christ dit, on peut même rester là, avec le Saint-Esprit, tant qu'il faudra. Pourquoi? Parce qu'à la table de proposition, Dieu dit quelque chose à Moïse. Dieu dit, dans ce lieu-là, un peu à côté de la table de proposition, tu vas me mettre un chandelier. Nous tous, nous savons c'est quoi le chandelier. Ça représente quoi? Oui. Ça représente... Ouais, merci. Le chandelier en lui-même, avec ses sept branches, c'est le Saint-Esprit, avec ses sept expressions. Les sept esprits de Dieu. On lit ça dans Apocalypse. La lumière vient par la flamme qui se dégage du chandelier. C'est pour vous dire que le chandelier peut être là, mais n'a pas la flamme. Parce que le chandelier doit être allumé. Et le chandelier doit être entretenu. Sinon, le chandelier, c'est pareil. Jésus a dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Je vous envoie l'Esprit. Parce que je sais que sans lui, vous ne pouvez aller nulle part. Et il y a des gens qui sont 20 ans dans une église. Ils ne vivent pas la manifestation du Saint-Esprit en eux. Pourquoi? Jésus avait dit qu'il envoie, non? C'est que ton chandelier est là. Mais personne ne l'allume. Personne ne l'active. Ah, il est là. On monte, on descend. Comme Dieu l'a envoyé, être là, il est là. Mais c'est à chacun d'activer son esprit. Jésus est tellement bon qu'il a dit, bon papa, ne le laisse pas comme ça. C'est Paul qui nous explique ça dans sa parole. Paul dit que nous avons reçu le jour de la Pentecôte. Nous avons reçu un dépôt d'art. C'est-à-dire, Dieu veut nous remplir de son esprit. Mais pas tout en même temps, parce que lui-même sait qu'il y a des choses à faire. Mais en chacun de ceux qui ont cru en Christ, dans le package salut là, il a mis les arts. C'est-à-dire qu'une petite réserve pour dire que bon, tu as cru en Jésus, je mets un peu ma griffe sur toi. Quand tu feras toutes ces choses-là, on va compléter. Les arts, c'est ça. Quand on voit un beau sac hein, et qu'on va acheter, on couche, on prend un peu d'argent, on me garde-moi ça. Garde bien ça. C'est ça les arts. C'est une garantie. Garde-moi ça. Dieu veut donner la garantie que, bon, comme tu t'es confié à Jésus-Christ, bon, je pense déjà que tu es pour moi. Mais comme il y a un petit chemin encore à faire, ce n'est pas tout rempli. Mais il y a des gens qui vivent avec les arts là. Ils oublient même chez le boutiquier qu'ils ont donné les arts. Va donc compléter pour retirer. Prendre. Il n'y a plus personne. Qui a déjà laissé l'argent chez un commerçant? Soyons francs, quand on était dans le monde là, on faisait ça beaucoup. Et il y avait même des boutiquiers qui disaient que un mois, je bouffe ton argent, tu n'as même plus. Ils te disaient 2 semaines, tu ne reviens pas. Moi, je garde l'argent et je mets les chaussures en vente. Amen. Dieu est patient. Il dit que les arts là, oh, c'est le jour où tu vas venir. À la table de proposition, Dieu dit quelque chose. Le chandelier là, il donne une instruction au sacrificateur. Il dit, chaque jour, entendez bien, chaque jour, vous allez entrer dans le temple et vous allez mettre de l'huile dans les lampes. Mettre de l'huile dans les lampes afin que la petite flamme que j'ai mis, les arts que j'ai déposés là, pour avoir une petite lueur, ne s'éteigne jamais. Mais ce qui est important, et je veux que vous regardiez, c'est d'où va venir cette huile. L'huile pour les lampes que les sacrificateurs doivent faire pour entretenir l'âme tous les jours dans le lieu saint. D'où vient cette huile? Il dit, huile pour les lampes. Je suis dans Exode 25. Exode 25, 20. Amen. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Et c'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile, c'est-à-dire hors de l'autre pièce, qui est devant le témoignage de Aaron et de ses fils, que tu vas préparer tout ça. Pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Je vous ai dit que les lois perpétuelles traversent Jésus. Amen. Il a dit, c'est une loi perpétuelle. La source de la lampe, c'est vous-même. Tu dois apporter de l'huile pour ta lampe. Une huile d'olive pure concassée. Vous savez, rien n'est pris au hasard pour Dieu. Dieu fait beaucoup d'allégories dans sa parole avec sa création. On a les figuiers, on a les palmiers. Il dit que le juste est comparable au palmier. On a un arbre planté au bord d'un ruisseau, il fait beaucoup de comparaisons. À quoi est-ce que l'olivier est comparé? Qui est l'olivier? Qui est l'olivier? Où est-ce que Jésus va venir quand il revient? Vous êtes des disciples, non? On lit la Bible. Lisez votre Bible. Il mettra le pied où? Ah. Il mettra le pied sur le mont des oliviers. Il mettra son pied au milieu de ceux qu'il vient chercher. Les oliviers, c'est ceux qui ont consacré leur vie à Christ. Les oliviers, c'est ceux qui veulent repartir avec lui. L'huile d'olive, l'olivier produit du fruit, et le fruit de l'olivier, c'est l'olive. Et on dit qu'il faut être, elle doit être pure déjà. Heureusement que Jésus nous a purifiés avant qu'on entre. Mais tu dois la concasser et la presser pour que l'huile sorte. Tu es l'olivier, presse-toi toi-même. Presse-toi toi-même et apporte cette huile. Pour que ton chandelier brille. Pour que la lumière éclaire. Pour que le Saint-Esprit te remplisse progressivement. Afin que tes yeux s'éclairent. Que tu aies la vision et que tu aies la compréhension de qui est Père. Tu vas lire la parole. Au niveau des pains de proposition, plus tu vas manger du pain de proposition, plus tu vas te presser, plus tu vas t'obliger à être, tu vas abandonner tes sorties, plus tu vas abandonner tes distractions, tu vas abandonner même tes repas, parce que tu veux manger de la bonne nourriture. Plus tu seras en train de te presser comme olivier, plus tu seras en train d'extraire de cette huile-là, que tu offres à Dieu. Parce que quand tu es devant la parole de Dieu et tu dis vraiment, Seigneur, enseigne-moi ta parole. Quand il voit ta présence, il dit qu'il regarde ton cœur. Il accueille l'huile que tu apportes. Amen. Il dit que tu es sacrificateur toi-même. C'est-à-dire ce qui est particulier, c'est que tu fais ça toi-même. Comme tu es sacrificateur, tu reprends cette huile et tu mets toi-même dans ton cœur. Hey. Personne n'accuse personne que tu ne progresses pas. C'est à ton niveau. Tu veux, tu progresses. Il n'y a pas de limitation. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas Satan là-bas dans la tente. Hein. Il n'y a pas les liens familiaux. Il n'y a pas on m'a attaché. Parce que Jésus t'a détaché à la croix. T'a lavé à la cuve. Et vous êtes en train d'aller vers Dieu. Non, laissons, ce n'est pas le combat. Je vous ai dit que Paul vous a donné un vêtement de combat de l'autre côté. C'est quand tu finis de passer chez Père que tu prends le vêtement là. Parce que là, tu es déjà devenu un guerrier. Amen. Donc, il n'y a personne qui t'empêche quoi que ce soit. Il n'y a que ta volonté, que ton désir, que ta faim et ta soif pour te faire traverser cela. Amen. Tu as ta parole, tu as ta Bible. Tu as tout, soyez curieux et aie soif. Écoutez les messages. C'est vrai qu'on peut entendre de tous les messages aujourd'hui. Mais demandez au Saint-Esprit, je vais écouter. C'est ta façon de te presser. Mais toi-même fais le tri. Ce qui ne vient pas de Dieu, que j'oublie. Ce qui doit rester, fixe-le dans mon cœur. Le Saint-Esprit est très content de travailler comme ça. Au moins on se comprend. Mais ne te dis pas, je ne vais pas écouter les messages de X, je ne vais pas écouter les messages de X parce qu'on t'a dit qu'il est sorcier, l'autre est machin. Soyez curieux, achetez les livres, lisez. Je constate, voici un livre. Il y a plein qui n'ont pas encore pris le leur pour des raisons et d'autres. Mais si vous n'avez pas soif de connaissance, si tu n'as pas la curiosité de savoir ce qui est écrit dedans, tu vas passer à côté d'une révélation qui a été donnée. Amen. Et c'est valable pour tout. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui veulent seulement être des écouteurs oublieux et ceux qui veulent vraiment être des actifs. Amen. Nul ne peut atteindre le cœur de Père si tu ne connais pas sa parole. Parce que ça veut dire que tu ne le connais pas. Et Daniel nous disait depuis, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il faut connaître ton Dieu. Daniel connaissait son Dieu. Et il a dit au grand roi Nebuchadnezzar, ta table là, moi je ne m'assois pas dessus. Je préfère ne pas manger. Je sais que mon Dieu veillera à ça. Amen. Si tu connais ton Dieu, tu es ferme dans ta foi. Et c'est l'opportunité, la table de proposition, c'est l'opportunité de connaître Dieu. C'est là où tu vas apprendre, de connaître Dieu sous tous ses noms. De connaître Dieu dans sa grandeur infinie. dans sa puissance, dans sa renommée, dans sa prééminence, de connaître Dieu dans sa nature profonde, de discerner Jéhovah de Elohim, de Eloah. Tu dis, je veux savoir ces choses. Amen. Et plus tu vas le faire, plus la lumière de ta lampe va t'éclairer. Elle va être de plus en plus haute, de plus en plus haute. À la fin, tu auras une bonne visibilité du lieu saint. Tu auras une bonne visibilité du lieu saint. C'est ça la révélation de la parole. Le psaume 119-130 dit que la révélation de la parole de Dieu nous éclaire et rend sage. L'autre version dit « et rend intelligent même les insensés ». Je ne vous parle pas d'école. Je vous assure, si quelqu'un sait seulement lire, même s'il n'est pas allé à l'université, et qu'il commence à dire « Saint-Esprit, je veux comprendre la parole de Dieu », il aura l'intelligence. Amen. Il aura l'intelligence divine. Alléluia. Donc ne dis pas que tu es un petit. Dis seulement, j'ai une grosse faim. Seigneur, j'ai faim de toi. Jésus a disposé le Saint-Esprit pour s'occuper du reste.